Bonsoir à tous, bienvenue dans Rue des Écoles, le magazine des écoliers, des collégiens, des lycéens et même des étudiants. Bref, le magazine de l'éducation de France Culture, tous les dimanches à 17h. Toute l'année, nous ferons vivre et éclairerons les débats éducatifs contemporains, numériques, interdisciplinarité, programmes, innovation pédagogique, enseignement du fait religieux et réforme du collège. C'est d'actualité, se demander comment réformer le collège, c'est poser la question des blocages de l'école, des inégalités socio-scolaires, on va beaucoup en parler, de l'efficacité pédagogique de l'enseignement et interroger le travail des enseignants. J'ai convié aujourd'hui deux chercheurs, François Dubé et Anne Barrère, qui se penchent depuis longtemps sur ces questions. Ils ont participé à un livre, Réformer le collège, et avec eux, il y aura aussi deux enseignants, deux collèges, deux professeurs de mathématiques qui donneront leur point de vue sur cette réforme compliquée. En fin d'émission, une autre enseignante, Charlotte Magri, elle a été professeure des écoles. Elle publie une lettre ouverte au ministère de l'Éducation, au ministre de l'Éducation nationale. Une lettre ouverte qui fait suite à un coup de gueule. L'année dernière, une tribune sur l'état des écoles à Marseille en particulier, où vous avez enseigné. Bonjour Charlotte Magri.
Bonjour.
Donc on attendra à la fin de l'émission pour vous entendre sur l'état de l'école, de la formation des enseignants, un point sur lequel vous vous arrêtez longuement et sur lequel, là aussi, vous poussez un coup de gueule. Et bien entendu, dans un tout petit instant, l'actualité de l'éducation avec Catherine Decopé de la rédaction de l'étudiant. Bonjour Catherine.
Bonjour Louise.
L'étudiant, notre partenaire à Rue des Écoles, au menu de vos actualités.
On reviendra notamment sur la manifestation de jeudi, le palmarès des villes signé l'étudiant et la sécurité dans les écoles et les universités.
On vous retrouve dans quelques secondes. L'équipe de Rue des Écoles, c'est Laurence Chenepin, attachée de production, Somanina à la réalisation et Jacques Hubert à la technique aujourd'hui. N'oubliez pas que cette émission se podcast, du verbe podcaster, et se réécoute sur tous les supports numériques pour dialoguer avec nous, commenter ce que vous entendez. Écrivez-nous par courrier sur le site et nous avons aussi une page Facebook et sur Twitter un hashtag RDE. Voilà, on a expliqué tout le déroulé de l'émission. Je vais quand même saluer mes invités. Bonjour François Dubé.
Bonjour.
Vous avez été le tout premier invité de Rue des Écoles. Merci d'avoir essuyé les plâtres il y a 7 ans. Je rappelle que vous êtes sociologue, professeur émérite à l'Université de Bordeaux, co-auteur de Réformer le collège, édité au PUF. La collection, c'est lavidesidées.fr, un site auquel on peut toujours se référer. Il y a d'ailleurs beaucoup d'articles sur l'école. Vous co-dirigez ce livre avec Pierre Merle, alors plusieurs contributeurs, Marie Durubella, Dominique Glassman, Noémie Le Donné et vous, Anne Barrère, bonjour.
Bonjour.
Vous parlez plus précisément du travail enseignant, un travail qui peut être modifié, évidemment, transformé par les réformes, en l'occurrence la réforme du collège. Il y a beaucoup à dire là-dessus. On s'arrête un instant sur le format de ce livre. Comme la semaine dernière, j'ai choisi un livre et il y en a plusieurs en cette rentrée. Assez court, format ramassé, peu académique. Alors pourquoi, c'est le format de la vie des idées, mais pourquoi parler de réformer le collège en 6 articles, 6 chapitres finalement assez courts hein, par rapport à ce que j'ai l'habitude de lire. François Dubé.
Je crois qu'on a vécu l'an dernier sur le collège une période un peu étrange où... Tous les éditoriaux nous expliquaient que la civilisation était foutue, que les humanités allaient disparaître, que la République était menacée. Enfin, il y a eu une sorte de, on peut dire, d'hystérie autour d'une réforme du collège. Alors, est-elle bonne, est-elle pas si bonne que ça, c'est une autre question. Mais en tout cas, on pouvait avoir le désir de dire de quoi on parle vraiment. Qu'est-ce que c'est que le collège aujourd'hui? Comment ça marche? Comment ça fonctionne? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Donc, c'est vrai qu'on peut être tenté aujourd'hui de faire des livres d'intervention visant à refroidir un peu le débat, c'est-à-dire à essayer d'introduire un peu de rationalité dans des situations, dans des contextes qui s'emballent. Et comme on s'approche d'une période électorale, on a le sentiment que ça va s'emballer de plus en plus et qu'on va entendre de plus en plus de choses étranges. Donc on se dit, faisons des petits livres qui peuvent se lire entre Bordeaux et Tours dans le train, que tout le monde peut comprendre, qui sont bien informés, dans lesquels les auteurs sont pas exactement sur la même longueur d'onde, mais qui font que le citoyen intéressé peut se faire une opinion.
D'accord, il faut un petit peu muscler la prise de parole et l'intervention face à une prise de parole politique, entre autres, ou des éditorialistes aussi.
Sur la réforme du collège, ça a été, mais c'est pas la première fois, je veux dire.
Oui, alors, autre question, parce que vous semblez surpris, mais c'est pas très surprenant.
Ah non, moi je suis pas surpris, je suis trop vieux pour l'être, malheureusement. C'est-à-dire qu'on a depuis 30 ans une sorte de rhétorique et de la réforme qui est toujours la même. Le système est foutu, les enquêtes PISA, etc. Et de l'autre côté, on refuse des réformes qui s'appuient à peu près toujours sur les mêmes rhétoriques. Et chaque fois, on est surpris d'ailleurs. C'est ça, c'est le charme de l'actualité. On a le sentiment que c'est toujours nouveau, alors qu'en fait, c'est des discours extrêmement anciens. Sur le collège, ce qui a été quand même très surprenant, c'est l'espèce d'emballement incroyable. On s'est rendu compte que la France avait une passion pour le latin absolument... formidable, que s'il y avait une partie du temps qui était vaguement déterminée par des équipes enseignantes, l'unité de la République, ça ne remettrait pas. Donc, il y a des arguments qui montent comme ça et qui font qu'à un moment donné, on ne sait plus exactement de quoi on parle. Et puis, la proximité d'une campagne électorale fait que, sans être grand... clair, on est reparti pour un tour. Enfin, si je veux dire, on ne va pas donner dans la subtilité dans les mois qui viennent.
On va l'entendre, je crois, dans les actualités, François Dubé, vous n'allez pas être déçu. Alors, pour parler du collège, c'est important aussi d'avoir des enseignants autour de cette table. Raphaël Ander, bonjour.
Bonjour.
Vous enseignez les mathématiques au collège. Oui. On précise pas le nom du collège. Cette réforme, vous y êtes plutôt opposé. Vous avez manifesté cette semaine ?
Oui, j'ai manifesté jeudi. Oui, alors c'est vrai que moi, je pense que les profs, c'est un peu les perdants de ce débat un peu hystérique qu'il y a eu autour de la réforme du collège. Effectivement, il y a eu des éditoriaux assez étranges et de l'autre côté aussi des défenses et des portraits du collège actuel qui nous ont beaucoup surpris, nous les enseignants. On s'y est pas du tout retrouvé. Par contre, ce qu'on a trouvé dans cette réforme, c'est... le fait qu'on allait finalement avoir un métier qui nous appartenait plus, un travail, alors on a parlé du travail enseignant, je pense que c'est un thème très important, et finalement il s'échappe de nos mains le travail enseignant avec cette réforme, et ça c'est un peu le drame, je pense qu'on a vécu l'année dernière depuis les annonces de la ministre depuis un an et demi quoi.
Voilà, un certain nombre d'enjeux sont posés. Nous aurons aussi au téléphone un autre enseignant qui lui a décidé de faire un site internet qui résume tous les aspects de la réforme du collège, des dizaines de pages. En fait, c'est très compliqué. On reviendra avec lui sur le sens de cette démarche, mais tout de suite, il est temps largement de passer à nos actualités. L'actualité de l'éducation, c'est d'abord la grève qui a touché les établissements du secondaire jeudi dernier, Catherine.
Lancé par l'intersyndicale emmenée par le SNES-FSU, le mouvement visait à protester donc contre la réforme du collège, on l'a compris, et c'est donc le sujet de l'émission du jour. Cette journée d'action, la cinquième depuis l'annonce de la réforme, a donné lieu à plusieurs manifestations dans toute la France, on vient d'entendre celle de Paris, mais selon le ministère, le mouvement a été peu suivi avec 4,6% d'enseignants grévistes dans les collèges.
On va tout de même écouter une manifestante.
Je crois qu'ils sont un peu abattus, ce qui est assez mauvais signe. Je pense que justement le ministère devrait y prendre garde. Ils ont quand même le sentiment que leur métier est en train de perdre tout son sens. Ça peut produire une crise de recrutement encore plus aiguë que celle qu'on connaît actuellement. À un moment, il faut que ça cesse, qu'on écoute et qu'on prenne le temps d'examiner vraiment les problèmes et les solutions.
Et ce n'est pas n'importe quelle manifestante, c'est Frédéric Rollet, secrétaire national du SNES, donc principal syndicat du second degré, interrogé par nos collègues de France Inter. Alors, quel était l'objectif de ce mouvement, Catherine, qui n'a pas fait le plein ?
Alors, c'est un objectif essentiellement symbolique, frapper fort dès la rentrée, en espérant créer un rapport de force, ou tout le moins obtenir un moratoire ou des aménagements dans l'application du texte, avec en toile de fond la prochaine présidentielle, on l'a déjà dit, plusieurs candidats à droite, mais aussi à gauche, ont en effet promis une abrogation du texte en cas d'élection. En attendant, il faudra voir évidemment comment ça se passe sur le terrain. car certains enseignants ont décidé de temporiser en appliquant la réforme à minima. On le sait, l'application d'une réforme de cette ampleur prendra de toute façon du temps et rencontrera des aléas, on l'a vu avec celle des rythmes scolaires.
Alors tout le problème, c'est de savoir si elle aura le temps de s'appliquer. On va écouter une réaction politique aujourd'hui. C'est François Bayrou qui s'est exprimé chez nos confrères de France Inter.
La réforme du collège est une des plus graves et des plus choquantes erreurs qui aient été commises en matière de politique éducative. Je pense que les enseignants le vivent extrêmement mal et qu'ils ont, à mes yeux, raison et qu'il faudra que l'alternance, s'il y a alternance, traite cette question.
Alors les enseignants le vivent extrêmement mal, ça peut être très contrasté. François Bayrou le dit, il n'est pas le seul. Nicolas Sarkozy a annoncé il y a environ 8 jours que lui aussi il abrogerait la réforme du collège. Finalement, un manque de continuité politique. Ça, c'est la vraie continuité de l'éducation. François Dubé, sur cette question.
Non, ça serait, de mon point de vue, un véritable événement.
Oui, s'il y avait de la continuité.
Parce que je n'ai pas le souvenir dans les années passées qu'une réforme ait été abolie par le gouvernement suivant. Je veux dire que Lang n'a pas aboli ce qu'avait fait Bayrou. Bayrou n'a pas aboli ce qu'avait fait Jospin. Il y a toujours eu une continuité. Et je dirais grâce au ciel. Grâce au ciel, l'école a quand même une relative continuité éducative. Alors, il y a des inflexions. Mais je crois que dire nous allons casser ce qui a été fait et revenir d'ailleurs plutôt en 1890 que pour beaucoup. En tout cas, que dans les années passées, c'est très nouveau. Et pour tout dire, je crois que ça n'est pas très sérieux. Il y a au contraire une certaine continuité dans cette affaire. On n'a jamais cassé. Je prends un exemple, pardonnez-moi d'être un peu long. Je prends l'exemple François Bayrou. François Bayrou fait un livre avant d'être ministre, La décennie des mal appris.
Ancien ministre de l'éducation.
Le collège unique, c'est la catastrophe, c'est l'horreur, je vais l'abolir. Il arrive et qu'est-ce qu'il fait ? Il casse les quatrièmes et les troisièmes technos qui étaient effectivement complètement contradictoires avec le collège unique. Donc, il a complètement continué ce qu'avait fait son prédécesseur et il a renforcé le collège unique. Donc, faisons très attention. Je trouve qu'on dit souvent un peu trop n'importe quoi là-dessus. Bon, évidemment, il s'agit d'abord aujourd'hui d'être élu. Je crois que le souci de l'éducation nationale est peut-être moins important que le souci des élections qui se préparent.
On va aborder d'autres prises de parole politiques de la semaine. François Dubé, une annonce tout de même cette semaine, puisque c'était jeudi, également le même jour que celui de la mobilisation, que le ministère a annoncé un certain nombre de créations de postes.
Oui, ça a coïncidé avec l'ouverture des inscriptions au concours enseignant des premiers et second degrés et conseillers principaux d'éducation. Alors, comme l'année dernière, 25 000 postes sont ouverts à ces concours, avec pour objectif d'atteindre, sur l'ensemble du quinquennat, 60 000 postes, enseignement supérieur inclus. Donc l'occasion évidemment pour le ministère de communiquer positivement, ce qui n'est pas évidemment un mal en cette année électorale, on l'aura compris.
Raphaël Ander, en tant qu'enseignant, les créations de postes, c'est une satisfaction.
Moi je suis enseignant à Montreuil dans le 93. La réalité dans le 93, c'est que les enseignants qu'on met face à nos élèves, c'est essentiellement des enseignants qui ne sont pas formés, qui ne sont pas titulaires. Donc les créations de postes, on les attend encore un petit peu et on les attend pas partout de la même manière en fait. Visiblement à Paris, ils ont moins ce genre de problème.
Inégalités socio-scolaires sur lesquelles nous reviendrons et nous y revenons d'ailleurs tout de suite puisque cette semaine, il y a une polémique entre un économiste bien connu, Thomas Piketty, et la ministre de l'Éducation, Najat Vallaud-Belkacem, qui a pris la peine de répondre à sa tribune par une autre tribune, Catherine.
Oui, alors Thomas Piketty s'est exprimé en fait sur son blog la semaine dernière. Il a dénoncé le manque cruel de mixité sociale dans les collèges et en particulier dans les collèges parisiens, chiffres à l'appui. On va l'entendre tout de suite. La mixité sociale, ça n'est pas toujours très facile.
Les enfants aujourd'hui, ils partent pas avec les mêmes chances de réussir. Le problème, il est ethnique, il est social. et il est culturel. Étant donné que nos enfants, en fait, ils peuvent pas côtoyer la mixité, et quand même, il faut pas oublier que l'école, c'est là où on apprend le vivre ensemble, et on trouve ça vraiment très dommage que les valeurs de la République qui sont écrites seulement sur le fronton, mais qui sont pas encore rentrées à l'intérieur.
On veut s'ouvrir à d'autres quartiers, on veut s'ouvrir à d'autres choses. On ne veut pas rester qu'entre nous. Donc ça, c'est une image qui est donnée, qui est fausse. On veut la réussite de nos enfants, on veut le meilleur pour eux. Et si c'est le meilleur pour eux, c'est d'aller dans des collèges où il y a de la mixité, ben ils iront dans les collèges où il y a de la mixité. En tout cas, dans un collège ghetto, c'est sûr qu'on n'y mettrait pas nos enfants.
J'ai choisi à dessein cette interview de deux mères de famille de Montpellier. C'est le quartier du Petit Bar. Alors, ce collège du Petit Bar a déjà évolué, mais ça a été très symbolique puisque ça a été une lutte des parents d'élèves pour la mixité. Un son qui a été diffusé l'année dernière sur le site de France Culture Pixel et qui avait été réalisé par Abderrazak El Idrissi. Catherine.
Oui, alors Thomas Piketty accuse en fait directement le gouvernement de ne pas réellement se soucier de promouvoir cette mixité. Il avance des solutions, par exemple intégrer les collèges privés et les collèges publics dans un même système d'affectation des collèges qui prévoirait du coup un quota d'élèves issus de milieux défavorisés, un quota en forme de fourchette pour plus de souplesse.
Ouais, c'est un petit peu la science-fiction, en tout cas intégrer le privé ça paraît très compliqué. Alors qu'a répondu la ministre?
Alors dans les pages du journal Le Monde, Najat Vallaud-Belkacem estime qu'il est illusoire de vouloir imposer arbitrairement la mixité au collège par une norme qui, je cite, priverait les parents de leur liberté. Et quant à la responsabilité des établissements privés que pointait Thomas Piketty, la ministre la reconnaît, mais elle préfère pointer de son côté les inégalités territoriales résultant de la politique de l'habitat, une manière de dire peut-être que le politique, en tout cas de son côté, ne peut pas tout.
Politique qui ne peut pas tout, mais qui parle beaucoup. Nicolas Sarkozy s'est débrouillé pour visiter une école cette semaine.
Oui, alors ce mois de septembre est très favorable en fait pour parler de l'école, ou en tout cas pour occuper le terrain médiatique avec le thème de l'école. À l'instar donc de Nicolas Sarkozy, qui a visité cette école primaire à Orgeval dans les Yvelines mardi dernier, dans le cadre de sa campagne à la primaire à droite. Selon Le Parisien, ça a été une visite éclair, qui a quand même suscité sur Twitter la réaction énervée de Christian Eckert, secrétaire d'État en charge du budget, qui s'est dit choqué devant les images de l'ancien président dans cette école. L'ancien président, vous l'avez dit Louise, qui propose d'abroger la réforme du collège s'il revient au pouvoir.
Oui, et le point uniforme de la semaine, on le doit à Jean-François Copé, qui lui propose d'instaurer, s'il est élu, une cérémonie de salut au drapeau en chantant la Marseillaise et puis voilà, rétablir l'uniforme. On a un discours qui se radicalise hein, d'une certaine manière sur les références à la nation, à l'histoire. J'ajoute que c'est assez difficile de rétablir le port de l'uniforme puisqu'il n'a jamais eu cours en France. Hein. Le port de l'uniforme, on a porté la blouse et je me suis renseignée, il paraît qu'elle n'a jamais été obligatoire nationalement. Ouais, vous avez encore une réaction, François Dubé ?
Non, mais de même que le salut au drapeau, on a dû faire ça un petit peu avant la guerre de 14, mais ce n'était pas du tout dans les mœurs. Donc, on rétablit une image d'Épinal, en fait. On établit quelque chose qui n'a jamais existé.
Et comment l'analysez-vous, vous qui observez l'école depuis si longtemps ? C'est vous qui l'avez dit, pas moi, une trentaine d'années.
Je crois qu'il y a une caractéristique française, mais que nous connaissons tous, c'est que on a une école qui a été totalement identifiée à la République et à la nation, c'est vrai historiquement, et qui s'est créée comme ça une sorte d'image, d'un âge d'or, d'un moment où l'école a été la justice, la nation, la citoyenneté, la laïcité, la culture. Et cette nostalgie, à chaque crise scolaire, revient sans cesse. Mais évidemment, ça n'est que la nostalgie d'une école qui n'a pas existé. C'est la nostalgie de l'école qu'on aurait aimée. Et donc, il y a aujourd'hui quelque chose qui est très très frappant, qui est le poids de cette, disons, de ces discours proprement conservateurs, voire réactionnaires au sens strict du terme, c'est-à-dire qui veulent revenir en arrière. C'est à la fois bien parce que ça prouve que les Français aiment l'école et s'y intéressent, et c'est à la fois un peu désastreux parce qu'il y a toujours l'idée qu'en revenant vers l'école de Marcel Pagnol, au fond, on retrouverait une grandeur perdue. Et je crois que c'est pas très sérieux.
Marcel Pagnol, fils d'enseignant lui-même, donc c'est peut-être pour ça, enfin non, bon, bref.
Ce sont des allusions littéraires scolaires.
Très scolaires, on s'en souvient. Raphaël Ander, d'avoir lu hein, Marcel Pagnol à l'école, cette image de l'école, et puisqu'on pourrait éventuellement vous demander, à vous, enseignant, de faire chanter la Marseillaise, lever le drapeau.
Alors moi je chante très faux, donc faut pas que je me lance dans ce genre de choses. Non, plus sérieusement, je suis assez d'accord avec François Dubay. Je pense que cette école idéale, effectivement, c'est une vision assez réactionnaire en fait, hein, d'une école qui de Jules Ferry, qui a voilà, on lui prête des vertus qui ont jamais vraiment existé. Après, il y a une deuxième illusion qui a été portée pendant par les défenseurs de la réforme du collège, c'est le fait que les profs sont tous immobiles, n'innovent pas, etc. Et ça, c'est aussi voilà, il y a l'illusion de cette ancienne école idéale, et il y a aussi une illusion sur l'école actuelle qui serait totalement désastreuse, dans laquelle personne n'essaierait rien, etc. Et voilà, donc où placer un discours un petit peu progressiste là-dedans, essayer d'améliorer les choses, essayer de mettre en place des expérimentations pédagogiques qui bénéficient aux élèves. Voilà, c'est ça la question, et je pense que c'est ni par un retour en arrière, ni en imposant une réforme un mécano construit de toutes pièces et dans lequel nous on se retrouve pas.
Bon, on change totalement de sujet avec un palmarès, Catherine, le palmarès, des villes où il fait bon étudier.
Oui, l'étudiant a sorti cette semaine son 10e palmarès. Alors c'est Grenoble qui l'emporte au classement général, et ce n'est pas la première année pour cette ville qui attire toujours autant pour la variété de ses formations, son réseau de transport en commun, le faible coût du logement et bien sûr la proximité de la montagne. Donc l'originalité du classement cette année, je le rappelle quand même, c'est la possibilité de le personnaliser en fonction des critères qui importent le plus à chacun.
Si on va sur le site de
l'étudiant.fr, formation, qualité de vie, bassin d'emploi. Et je le rappelle, ce palmarès est établi sur la base de données publiques. Et donc, en clin d'œil à l'un de vos invités, François Dubay, Louise, j'ai regardé à quel niveau se situait Bordeaux. On retrouve la capitale du Sud-Ouest au 7e rang du classement général, mais en 2e position pour les villes dans lesquelles il est plus simple de décrocher un emploi une fois diplômé. Et à noter que Bordeaux fait partie des 3 métropoles qui ont vu leur nombre d'étudiants progresser le plus ces 10 dernières années, derrière Paris et Lyon.
Quant à Paris, évidemment, elle ne peut pas être première en raison du coût du logement. Autre actualité cette semaine, la sécurité des établissements scolaires. On en a parlé à la rentrée, puisque de nouvelles mesures ont été prévues sur ce thème. Et je vous propose d'écouter le délégué général, le secrétaire national du syndicat des personnels de l'éducation, de direction de l'éducation nationale. Les sigles sont toujours très longs. SNPDEN, UNSA.
Le moindre magasin de t-shirts dans une galerie marchande a un personnel de sécurité, et un établissement de 2000 élèves n'en a pas. Et tout le monde a l'air de trouver ça parfaitement normal. Alors on nous explique que la sécurité c'est l'affaire de tous. Dans ce cas-là, je m'étonne que dans les ministères, il y ait des personnels de sécurité. Si c'est l'affaire de tous, ils devraient montrer l'exemple et avec leur propre personnel faire qu'il n'y ait pas de souci. Donc voilà, cette question se pose. Il ne s'agit pas d'avoir des gardes armés dans les établissements. Il s'agit voilà qu'il y ait des gens dont la sécurité est le métier. Aujourd'hui, un établissement, la sécurité n'est le métier de personne. C'est-à-dire que nous sommes tous des amateurs de sécurité. La sécurité est assurée par des agents d'accueil qui sont en fait des agents d'entretien et d'accueil. On ne peut pas continuer à faire assurer la sécurité concrète, je veux dire, observer les sacs, demander des pièces d'identité, etc., par des gens dont ce n'est absolument pas le travail et le métier. Et ça, c'est une vraie question à laquelle personne ne nous répond.
Une vraie question qui faisait un peu peur hein, en écoutant Philippe Tournier au micro là de Sonia Bourane, mais j'étais à cette conférence de presse. Autre point de sécurité, très rapidement, Catherine,
oui,
pour les
universités.
Oui, ça concerne
les universités. Donc 30 millions d'euros ont été débloqués pour la sécurité des universités. Ça consiste à embaucher des vigiles, mais évidemment l'actualité a fait un petit peu de vague puisque les fonds ont été ponctionnés dans les réserves qui sont en fait les amendes payées par les universités qui n'emploient pas assez de personnel handicapé. Donc voilà, le débat reste ouvert. C'est déshabiller Pierre pour habiller Paul, Louise.
Merci beaucoup, Catherine. Et à très, très vite.
À très bientôt.
Vous restez avec nous.
France Culture, rue des Écoles, Louise Touret.
Réformer le collège, c'est le titre du court livre dont nous parlons aujourd'hui, dirigé par François Dubay, ici présent, qu'on a déjà entendu, et le sociologue Pierre Merle. Réformer le collège, c'est une obsession française, mais c'est bien ce qui est en train d'arriver avec la fameuse réforme du collège contre laquelle des enseignants ont manifesté cette semaine. Réforme qui pose beaucoup de questions. On va se concentrer sur deux questions aujourd'hui. On en a déjà abordé certaines. Sur, d'un côté, le travail enseignant et de l'autre côté, la lutte contre les inégalités socio-scolaires. Et ça, en France, ça reste très central. Pourquoi on a parlé de PISA avec François Dubé? C'est vrai que beaucoup d'études nous renvoient à cette triste réalité. Le système scolaire français non seulement entretient, mais aussi amplifie les inégalités sociales. Faire une réforme du collège devrait répondre à ce mal national. Est-ce que faire de l'interdisciplinarité, changer, bouleverser 20% de l'emploi du temps des collégiens, c'est une forme de réponse? Votre regard, vous qui êtes enseignant à Falander.
Oui, alors déjà l'interdisciplinarité, on en faisait déjà. C'est-à-dire que moi je suis enseignant en mathématiques. Quand je parlais de l'histoire des mathématiques à mes élèves, j'ai l'impression que c'était de l'interdisciplinarité. Avant la réforme du collège, j'avais monté un projet où j'enseignais les maths en anglais à mes élèves. C'était de l'interdisciplinarité. Donc en fait, encore une fois, on a cette illusion que les profs ne faisaient pas cette interdisciplinarité, n'accompagnaient pas les élèves, puisqu'il y a aussi l'accompagnement.
Mais si bien, pourquoi ne pas le rendre obligatoire?
Alors,
et l'encadrer?
La question que je me pose, c'est que finalement, avec cette réforme, on nous a dit il y a deux types d'enseignants. Il y a une petite minorité d'enseignants qui innovent et puis il y a tous les autres, les mammouths qui ne bougent pas. Alors admettons, je pense que c'est faux, mais admettons, supposons qu'il y a ces deux catégories. À qui bénéficie cette réforme? Ni aux uns ni aux autres. Ceux qui ne bougeaient pas, à mon avis, ils vont pas bouger plus. Ils vont fabriquer des EPI. Alors c'est les enseignements pratiques interdisciplinaires.
Je vous remercie de préciser.
Ils vont fabriquer des EPI un peu artificiels. On a eu beaucoup d'exemples de choses bien artificielles quand même dans les préconisations qui nous ont été envoyées toute l'année dernière. Et puis ceux qui innovaient déjà, alors peut-être que j'en fais partie, peut-être pas, je sais pas, je vais pas me juger, mais vont être très embêtés avec cette réforme, parce que finalement les projets qu'ils avaient déjà envie de faire, ils vont devoir les faire rentrer dans des cadres très contraints et ils s'y retrouveront pas.
Mais la question que je vous ai posée, même si je vous remercie de votre réponse, c'était sur agir contre une école inégalitaire, c'est-à-dire changer de manière d'enseigner pour peut-être privilégier davantage, enfin en tout cas mettre l'accent sur les élèves qui ont besoin d'un enseignement différent, de pédagogie un petit peu renouvelée pour répondre à leurs difficultés et pour une école plus adaptée à des enfants qui n'ont pas tous les prérequis.
Alors ça on a vu, il n'y a pas que moi qui dis ça, il y a un rapport du ministère, c'est le rapport de l'AE qui disait exactement ça. La pédagogie c'est pas du tout la première réponse à apporter au problème des inégalités sociales. Donc, mais là, on a une ministre qui nous a dit qu'elle n'avait pas envie de faire, de résoudre le problème de la mixité sociale. Donc, on va faire de la pédagogie.
Ça, c'était sur la carte scolaire.
Ouais. Alors après, il y a la question des 20% d'autonomie. Moi, dans mon collège, donc c'est un collège en éducation prioritaire, on avait quelque chose avant la réforme, on avait une heure par classe. C'est pas énorme, mais c'était déjà ça. Ça fait 22 heures au total. Ça fait un peu plus d'un poste d'enseignant. Avec la réforme, ces heures-là, on les a plus. En fait, c'est-à-dire que tout le monde a exactement la même chose. Et par contre, la différence, c'est que c'est la façon dont on va l'utiliser. Alors, j'imagine que dans les collèges, le collège là du proviseur qu'on a, enfin, il n'est pas en collège, il est en lycée, mais les collèges de son secteur dans le 7e arrondissement de Paris,
on peut dire
je
que
pense
Philippe
qu'ils vont.
Tournier est proviseur du lycée Victor Duruy.
Voilà.
À Paris, 7e.
Donc, dans le 7e arrondissement, ils vont certainement l'utiliser pour pousser encore plus loin des élèves qui, finalement, ont beaucoup de facilité et beaucoup de culture à la maison. Et nous, on va utiliser les heures qu'on va avoir pour faire de l'accompagnement, faire de la remédiation, pour des élèves qu'on accueille en sixième, qui sont des fois très très loin quand même de la culture scolaire, qui des fois ont des gros problèmes de rapport aux autres, etc. Donc voilà, en fait, on passe d'une culture où on disait on donne plus à ceux qui ont plus besoin, ça c'était les heures plus supplémentaires en REP, à une culture où en fait on donne la même chose à tout le monde, mais par contre les collèges vont pas avoir les mêmes ambitions suivant le milieu dans lequel ils sont.
Anne Barrère, sur cette différenciation et ce ce mécano pédagogico-institutionnel dont vous parlez dans le chapitre, qu'elle a l'air assez complexe. Hein.
Alors oui, enfin moi j'aimerais quand même revenir un peu en amont sur le fait que ce qui est un peu désolant quand même, c'est que la discussion du travail enseignant à l'occasion de chaque réforme et chaque fois identique, je suis d'accord avec vous pour dire qu'elle polarise en fait. On se demande si la réforme va être abrogée, si elle va pas l'être, etc. Et elle brouille complètement et elle simplifie la réalité du travail enseignant qui pendant ce temps-là continue avec des enjeux qui sont pas forcément tels qu'ils sont exprimés dans les réformes. Ça, c'est une première chose.
Alors, préciser la différence dont je veux, comment ça s'exprime dans la réforme, comment ça s'exprime dans la classe.
Par exemple, pour en revenir aussi à votre question, je crois pas, contrairement à ce que vous disiez, qu'il y ait aucun lien entre pédagogie et inégalité, mais je pense aussi que l'interdisciplinaire, effectivement, beaucoup d'enseignants faisaient, et que l'interdisciplinaire qui apparaît comme le cœur, là, de la réforme, n'est sans doute pas non plus une panacée au vu de ce que la recherche peut dire des enjeux pédagogiques en vue des inégalités. Par exemple, les chercheurs ont montré que c'était beaucoup plus la question du cadrage, des explicites. Une pédagogie interdisciplinaire peut être très informelle, et mettre finalement très en difficulté des élèves qui ne sont pas habitués à la culture scolaire. Et donc ces débats pédagogiques qui sont au long cours sont toujours caricaturés, très simplifiés par les annonces de réformes qui sont prises dans un agenda politique et encore plus évidemment cette année, qui n'a rien à voir avec la transformation au long cours du travail enseignant depuis, on va dire, le collège unique. Avec des difficultés et aussi avec quelque chose, je crois, qui explique le fait que le débat est toujours le même et un peu stérile, c'est qu'au fond, les réformes, vues du point de vue de la réforme dans ce pays, la réforme est une proposition relativement uniforme qui s'adresse maintenant à des établissements scolaires qui sont de facto devenus très différents. Très différentes dans leur contexte, très différentes dans leurs équipes enseignantes, très différentes dans leur direction d'établissement. Et que du coup, si les enseignants se fédèrent, même parfois ceux qui font de l'interdisciplinaire contre la réforme, c'est aussi beaucoup sur des processus très bureaucratiques de mise en œuvre de réformes qui correspondent d'ailleurs pas à ce que les responsables eux-mêmes disent de ce que doit être aujourd'hui l'éducation, beaucoup plus réactive, etc. Et donc il y a des contradictions qui font que le débat se pose là où il n'est pas forcément le plus intéressant qu'il se pose, ou en tout cas il peut être déplacé sur la question de ségrégation, ça c'est bien vrai, mais aussi sur la question de l'innovation pédagogique, de ce qu'elle donne, et ce n'est pas forcément ça qu'on entend quand on parle de la réforme du collège.
Et à partir de là se pose la question de la méthode de la réforme. Comme je vous l'ai dit, j'étais à cette conférence de presse des proviseurs et principaux d'établissements. Et finalement, ce que disait ce fameux Philippe Tournier, c'est que ces réformes qui viennent d'en haut pour s'appliquer de manière uniforme sur le territoire et dans l'ensemble des établissements, ça fait 30 ans, mais même, j'ai envie de dire, beaucoup plus longtemps qu'on en fait. Et ça ne correspond plus au monde dans lequel nous vivons et à la variété des établissements. Et c'est un peu la question que vous posez, François Dubé, dans le voix. Je vous dis, finalement, ça ne peut plus fonctionner. Pourquoi ?
Il faut d'abord noter ce paradoxe extraordinaire, c'est celui d'être face à un système qui paraît quasiment congelé, je veux dire intouchable, bloqué, etc., et qui est composé de gens qui s'activent du matin au soir. C'est-à-dire que, au fond, quand vous regardez l'école du point de vue des établissements, ça bouge, les gens s'engagent, etc., quand vous regardez l'école comme un système, on ne peut rien changer, rien toucher, sans mettre en place des protestations, etc. Donc, il y a quelque chose dans notre fonctionnement qui est devenu véritablement bloqué, pervers, enfin on ne sait pas trop comment dire. Des gens s'activent et bougent et l'école, elle, ne bouge pas. Voilà, c'est ça. Et donc, vous avez des choses très très étranges. Une école extrêmement centralisée, avec des programmes nationaux, des examens nationaux, une formation nationale. Enfin, logiquement, ça devrait être homogène. Et l'hétérogénéité des établissements est absolument incroyable. Bon. Et d'ailleurs, les parents le savent. Là-dessus, la ministre a raison. Les parents le savent. Et d'ailleurs, surtout les parents qui sont enseignants par ailleurs et qui font leur marché sur les bons établissements, etc., et qui dénoncent les parents.
Alors, les enseignants, c'est une réalité protégée.
Mais c'est quand
vous
même
savez, François Dubé, que quand on vous invite, eh bien, il y a beaucoup d'enseignants qui réagissent sur les réseaux sociaux et autres pour dire que vous chargez beaucoup la barque
des
professeurs.
Je ne charge pas la barque. Je viens de dire, au contraire, qu'ils sont extrêmement actifs. Mais je trouve que sur des affaires comme ça, il faudrait quand même regarder, je renvoie au papier de Piketty lui-même, les grands usagers des dérogations de la carte scolaire, ce sont
les enseignants. Les enseignants.
Je ne dis pas ça par perversité, j'ai moi-même pratiqué ce genre de sport. Mais je veux dire qu'à partir de ce moment-là, vous ne pouvez pas demander une régulation centralisée et homogène du système, puisque vous ne la pratiquez pas pour vous-même.
Mais pour revenir à cette idée de comment réformer, est-ce qu'on a là une image de la difficulté politique aujourd'hui à intervenir globalement sur une réalité protéiforme et à aussi une défiance des utilisateurs, usagers et professionnels.
Il y a un épuisement
vis-à-vis de la parole politique et de l'action politique.
Il y a un épuisement en même temps.
Anne Barrère également.
Autrement dit, est-ce qu'une véritable réforme, elle ne serait pas celle de l'encadrement en fait? Celle de l'encadrement du travail enseignant, celle aussi de la formation. Je crois que, j'ai pas fait d'enquête vraiment sur le collège, mais je crois que la manière dont on a fait descendre des formations par des inspections dans des jours dédiés à la réforme du collège a quand même un peu exaspéré pas mal de monde. Et donc, on peut se dire aussi qu'une des réformes urgentes, elle est aussi celle de cet encadrement.
En avance, un peu à l'envers, ma vie n'est qu'un souffle longtemps éphémère. Si je manque d'aisance, je passe à l'arrière. Je vis en alternance, je ne puis m'en défaire. Sans même vivre, je dure sur les nerfs. Chancelle, heurte les murs. Sans même vivre, j'effleure le coin du jour. Me souris et je demeure.
France Culture, rue des Écoles, par Louise Touré.
Je confirme, et vous avez entendu Gaëtan Roussel, en attendant de lui plaire, en attendant que la réforme du collège plaise aux enseignants, et peut-être aux familles, aux parents, aux élèves, il y a peut-être encore du travail, et du travail justement, Luc Destombes, qui est aussi enseignant de mathématiques, en a fourni, et vraiment une grosse masse de travail, si on va sur son site, réformeducollège.fr. Bonjour Luc Destombes.
Oui, bonjour.
Merci d'être au téléphone avec nous. Donc j'ai pu consulter ce site pour m'informer tout simplement sur cette réforme et rentrer dans le détail des pages et des pages d'explications sur la répartition des heures, des moyens, comment allait s'appliquer cette réforme dans les établissements. Vous êtes enseignant et avec des collègues, vous avez décidé de faire un travail d'exégèse en fait de cette réforme. Pourquoi ?
Oui, c'est un travail collectif en fait. Le point de départ, c'est en avril 2015, quand je découvre les nouveaux programmes de maths. C'est un peu la magie d'Internet, on se retrouve assez rapidement à une dizaine de profs de maths, et on fait trois colonnes dans le programme de maths. Qu'est-ce qui apparaît, qu'est-ce qui disparaît, et puis qu'est-ce qui change de niveau. Puis on s'aperçoit qu'il y a quand même une grosse colonne de disparition, et il y a pas mal de changements, et on se dit « c'est un gros changement ». Alors le premier jour, vous lancez l'idée de faire un site internet à 2-3 personnes, puis le lendemain, vous êtes 10, et puis un mois après, vous êtes une trentaine, et vous allez passer 6 mois de votre vie dans le but d'abord de clarifier la réforme pour vous, et puis après, de dépasser ce que vous entendez dans les médias, qui vous semble toujours rapidement traité, quoi, deux, trois points, le latin, les bilingues, mais vous apercevez en déco dans les textes et en allant un peu plus loin parce que vous êtes un enseignant de terrain et donc ça vous parle, vous voyez qu'en fait, c'est des gros changements.
Mais si vous mettez 6 mois avec des collègues pour décrypter une réforme et que moi, qui suis spécialiste de l'éducation, très modestement, je ne comprends pas tout en consultant votre site. Est-ce qu'il n'y a pas un sérieux problème de complexité, d'après vous, Luc Détombe ?
Oui, tout ça est très complexe. En fait, le système de l'éducation nationale est complexe. Les textes sont complexes. Ils ont des ramifications dans toutes les couches des réformes successives qui se sont empilées auparavant. Et alors, c'est très difficile, en fait, si vous vous posez une question toute simple comme « Est-ce que j'ai plus d'heures de cours ou est-ce que j'ai moins d'heures de cours ?» Vous vous mettez à 4-5 pour y réfléchir tous les soirs pendant 2 heures et je peux vous assurer que vous en avez pour 3 semaines pour faire le tour de la question. Et à la fin, vous vous apercevez qu'effectivement, il y a 250 heures de cours de moins et que même les élèves qui n'ont aucune option ont 162 heures de moins sur les 4 années du collège, ce qui est relativement modeste, hein, mais qui est quand même une légère baisse. Et... voilà, oui, c'est complexe.
Et c'est ce qui explique aussi une partie des débats hein, sur le nombre d'heures qui allait peut-être baisser en termes de discipline et pas seulement pour les langues anciennes, mais aussi toute une organisation qui, c'est pas qu'elle n'est pas transparente, c'est qu'elle est trop complexe pour être comprise, y compris par les intéressés. Anne Barrère, j'en viens à vous, auteur de ce chapitre sur le travail enseignant. Est-ce que c'est pas devenu trop compliqué pour poser la question simplement, en termes d'organisation?
Je pense que moi, dans l'article, j'ai pas voulu parler seulement de la réforme du collège, mais donc aussi de
l'ensemble. Globalement?
Oui, d'un ensemble de changements. Alors, l'enseignant disait qu'au fond, c'est des gros changements curriculaires, mais qui se présentent quand même.
Curriculaires, on parle du programme et de ses attendus.
Mais en fait, qui se présentent pas comme ça, qui se présentent comme des petits déplacements, des dispositifs. Là aussi, les EPI, on les ajoute, mais s'il n'y a pas une révolution globale. Mais en fait, ce que ça produit, c'est bien cette impression de complexité croissante qui fait aussi, je rebondis sur quelque chose qui a été dit tout à l'heure, l'idée de la perte du cœur de métier, qui fait qu'au fond, on va se consacrer beaucoup à l'organisation, en fait, du travail enseignant. Et je crois que c'est pas propre à l'école, hein, il faut parfois en sortir. Je crois que c'est dans beaucoup d'autres métiers aussi qu'il y a une sorte d'abstraction du travail et une perte du sens, en fait, du cœur de métier. C'est en tout cas ce sentiment qu'ont les enseignants, mais aussi les chefs d'établissement. Parce que pour le coup, ces réformes, moi j'avais fait une enquête aussi sur les chefs d'établissement, ils montraient aussi à quel point c'était devenu d'une complexité assez grande.
Et peut-être aussi les parents, par exemple, usagers de l'école, qui se posent la question légitime de l'efficacité pédagogique et sinon de la réussite scolaire de leur enfant, au moins de leurs acquisitions et du fait que ce soit bien ça le centre, enfin le cœur de métier. Des enseignants et de l'école, même si voilà, on éduque aussi les enfants à l'école, mais tout de même la transmission des savoirs. Qui veut réagir, François Dubé?
Non, mais il y a une transformation profonde, mais en même temps, elle est d'autant plus mal vécue. Mais je ne veux pas parler à la place de ceux qui la vivent, qu'au fond, les enjeux sont jamais vraiment définis. Ouais. On voit bien ce qui change. Revenons un peu dans le temps. Je veux dire, le collège en France, le collège unique, est invraisemblable dès la naissance. C'est-à-dire que c'est à la fois le lycée bourgeois et tous les élèves. Bon. Et depuis 30 ans, depuis 40 ans, on se dispute là-dessus. Il faudrait que ce soit le lycée Henri IV pour tous. Bon, voilà. Et ça n'est alors, vous êtes plutôt du côté pour tous et d'autres sont plutôt
vous
du côté.
Vous Raphaël Ander qui enseigne à Montreuil.
Mais c'est le même collège. Donc, on a créé des filières, des machins, des trucs, des classes européennes, etc., etc. Donc, on a toujours fait ce bricolage. Il est bien évident qu'il faut en sortir, y compris dans la formation des enseignants. Mais l'arbitrage ne se fait pas. Et là, on pourrait reprocher aux politiques, au fond, de ne jamais faire le travail pédagogique qui consisterait à dire, écoutez, voilà ce qui doit changer dans le métier d'enseignant, dans la vocation des établissements. Au fond, l'un de nous le disait tout à l'heure, on empile des choses pour avoir l'air de changer les choses sans qu'elles changent véritablement. Et donc, c'est devenu, je le comprends, insupportable. Et comme le disait Anne, dans un grand nombre de domaines professionnels, il suffit d'aller voir l'hôpital. Les gens ont exactement le même sentiment, c'est-à-dire de consacrer de plus en plus de temps à l'organisation de leur travail et de moins en moins de temps à leur travail même.
Pas encore la tarification à l'acte au collège. Raphaël Ander, on va passer à Charlotte Magri hein, dans quelques secondes, mais juste sur ce sentiment de perte en fait du sens, du cœur du métier. Alors pas vous hein, dans votre pratique, je ne peux pas en juger, mais plutôt par la demande hein, de l'institution, de votre hiérarchie et de la manière dont le ministère réforme l'école aujourd'hui.
Alors déjà effectivement c'est vécu totalement différemment suivant les collèges, mais le point commun je crois dans tous les collèges à la rentrée c'est quand même que c'est un bazar pas possible. Les emplois du temps, les heures des élèves. Alors suivant les cas, c'est les profs qui ont des emplois du temps ingérables. Dans d'autres cas, c'est les élèves. Mais en tout cas, effectivement, on s'y retrouve pas. Sur la complexification, je vais donner un exemple. C'est le nouveau brevet, parce que ça aussi, ça a changé. Le nouveau brevet, avant, il y avait, on additionnait toutes les moyennes.
Voilà. Le DNB aujourd'hui.
C'est ça. Avant, on additionnait toutes les moyennes de l'année. Voilà, ça faisait une note sur 200. Et c'était le contrôle continu. Maintenant, en fait, à la place de ça, on a 8 compétences. Donc, la première compétence du socle commun était divisée en 4. Et après, on a pris les 4 autres. Donc, en tout, ça fait 8. Déjà, je sens que je vous ai perdu. Mais ces 8 compétences sont évaluées selon 4 niveaux. Mais pour évaluer les 4 niveaux, évidemment, on va faire une péréquation avec les notes des élèves. Et puis ensuite, après, une fois qu'elles sont évaluées sur 4 niveaux, on met une note sur 50. Je crois que si l'objectif, c'était de faire plus simple, c'est raté.
Très éloquent. On passe, mais vous allez rester évidemment pour écouter notre dernière invitée, Charlotte Magri, maîtresse d'école. Rebonjour Charlotte Magri.
Rebonjour.
Vous n'êtes plus maîtresse d'école, mais vous l'avez été. Vous avez écrit donc cette fameuse lettre ouverte l'année dernière pour dénoncer la situation des écoles des quartiers populaires de Marseille. Écoles très pauvres, hein, dans des situations matérielles très dégradées. Aujourd'hui, cet ouvrage, alors si je dis maîtresse, c'est parce que c'est le terme hein, qui est utilisé en quatrième de couverture.
C'est très bien.
Professeur des écoles au ministère de l'éducation nationale, un désir de prendre la parole encore et aujourd'hui sur la situation des écoles, des quartiers populaires en particulier.
Je pense simplement que dans les quartiers populaires, on retrouve poussé à l'extrême les conséquences des dysfonctionnements qui sont partout ailleurs dans le système. Donc c'est plus visible dans les quartiers dits populaires ou dits prioritaires, mais on les retrouve dans l'ensemble du système éducatif. À mon sens. Par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure pour présenter le livre en début d'émission, et ce qui a été dit tout à l'heure par rapport à la perte de sens, je me suis retrouvée, moi, en perte de sens totale par rapport à mon métier, le jour où j'ai dû dire à une mère d'élève, quand elle m'a demandé est-ce que je peux laisser ma fille à la maison, c'est pas mieux que je laisse ma fille à la maison le temps que le chauffage soit réparé, et que je lui ai répondu oui. Je me suis dit, voilà, donc je suis enseignante et je dis à une mère d'élève qu'il vaut mieux qu'elle laisse son enfant à la maison parce que notre mairie ne fait pas son travail et que l'État n'oblige pas la municipalité à assumer ses responsabilités. Cette perte de sens voilà, m'a poussée à écrire la lettre ouverte qui est parue fin novembre. Après, il y a eu un espèce d'emballement médiatique sur le cas des écoles à Marseille qui a permis quelques petites avancées. Après, il ne faut pas rêver, ça reste beaucoup de communication et un peu d'action. Et ce que j'ai essayé de développer dans le livre, c'est tout ce qui avait été mis de côté parce que ce n'était pas facilement... C'est pas possible de le mettre facilement en image. Un mur qui tombe, des trous dans le sol où il y a de l'amiante, c'est facile de le mettre en image. Les problèmes humains, comment les enseignants sont recrutés, formés et affectés dans telle ou telle école, ça par contre, c'est beaucoup plus compliqué.
Voilà, c'était un peu la suite hein, de cette tribune. Effectivement, il n'y a pas que les conditions matérielles. Alors vous arrêtez longuement sur la formation des enseignants. Vous dites entre ce que j'ai appris au cours de ma formation, faire des fiches pédagogiques avec des situations bien précises, me retrouver devant une classe avec des élèves tous différents, on parle souvent d'hétérogénéité, hein, c'est un des enjeux pour les enseignants, et bien, me retrouver devant une classe, c'était en décalage total avec tout ce qu'on m'avait appris.
Oui, parce qu'on est encore là. Évidemment. En primaire, on nous apprend à focaliser, on a une entrée didactique, c'est-à-dire on nous apprend comment enseigner la lecture à une classe de CE1 idéale, complètement théorisée, à une classe de, je sais pas, l'histoire, à une classe de CM2, on fait des fiches de prep, on ne fait que ça à l'UFM. Alors je sais qu'il y a eu des modifications, après qu'on ait annulé complètement la formation, on a, dans les ESP, on a voulu élargir.
Comme on n'est pas filmé, j'indique que François Dubé fait la moue et dit non, pas tant de modifications avec
mais
ces nouvelles ESP.
C'est ce que
ESP.
J'allais dire, c'est que c'est du décalage et de l'aveu même de l'institution, parce que dans le rapport dont vous parliez tout à l'heure, de l'IGEN de l'année dernière, de l'Inspection Générale de l'Éducation Nationale,
merci
donc
ce n'est
pas, des tireurs embusqués qui... Voilà. Il est dit explicitement dans le rapport que finalement, c'est juste un effet d'affichage parce qu'on n'a pas les moyens, on n'a pas le volume horaire et on n'a pas les moyens, c'est du saupoudrage. C'est écrit noir sur blanc de la parole même de notre institution.
Donc, on a un budget de l'éducation nationale qui n'a jamais été si important en France dans l'histoire. Si on compare aux années 50, ça a triplé en termes de pourcentage. Hein.
Mais le problème, c'est pas les moyens. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait des moyens ? Je veux dire, on est à un stade où on a quand même des fondations qui s'effritent et on change des tuiles. On envoie au collège tous les ans des élèves qui ne savent pas lire correctement comme ils pourraient le faire si on leur donnait les bonnes conditions, qui n'ont pas les compétences mathématiques qu'ils pourraient avoir si on leur donnait des bonnes conditions, et on s'amuse à réformer le collège. La priorité aux primaires, par exemple, elle est affichée depuis un certain temps par le gouvernement actuel. Dans les faits, il ne s'est rien
depuis
passé.
Depuis l'élection de François Hollande, c'était la priorité de Vincent Peillon et des ministres successifs.
Ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. La priorité, elle a été affichée, elle n'a pas été mise en œuvre. Donc tant qu'on n'aura pas des écoles et des collèges et des lycées correctement équipés avec des enseignants correctement formés, à quoi ça sert de multiplier des réformes qui sont périphériques et qui surajoutent au millefeuille dont on a parlé, qui surajoutent au manque de sens que les enseignants vivent, qui surajoutent à l'impression d'être jugés en permanence, même par ceux qui essayent simplement de critiquer l'institution et qui bloquent le changement. Et donc, je pense que, voilà, après, c'est ce qui a déjà été dit tout à l'heure. On est tellement dans une logique de court terme, de campagne électorale permanente, que ce qui a besoin d'être fait sur l'école, c'est du long terme. Donc, on n'y arrive pas. On empile des briques qui n'ont pas de sens. Mais pendant ce temps-là, vraiment, ça s'effondre. Moi,
Alors, pour revenir à cette formation et rentrer un peu dans les détails, puisque ces questions pédagogiques, elles sont au cœur du métier d'enseignant, de la transmission. Voilà, vous dites qu'il faut apprendre à lire à une classe. Alors, des fiches de préparation pas forcément au point et une méconnaissance, dites-vous, de ce qu'est la réalité. Et là, on ne parle pas de la réalité sociale, de la réalité des capacités des enfants, leur manière d'appréhender le monde, comme si... on a parlé de Céline Alvarez beaucoup dans les médias, une enseignante qui, avec la méthode Montessori, a rencontré un certain succès dans sa classe, même si elle n'enseigne plus. En tout cas, c'est très médiatisé. Vous aussi, Charlotte Magret, c'est l'impression que vous avez eu mauvaise méthode ?
Oui, mauvaise méthode. C'est pas que ce soit mauvais. Évidemment, on a besoin de maîtriser les contenus qu'on souhaite transmettre. Donc l'entrée didactique, elle est nécessaire. C'est quand même, faut quand même savoir ce qu'on veut enseigner à nos élèves. Mais si vous n'avez aucune idée de comment gérer la prise de parole partagée au sein d'un groupe, si vous n'avez aucune idée de, ce n'est pas de connaissances élémentaires de base sur la psychologie du développement, sur la manière dont un enfant se construit. Bon, je parle enfant parce que moi je suis au niveau du primaire, mais c'est pareil au collège. Si vous n'avez aucune idée de comment faire vivre ensemble et travailler ensemble, un groupe forcément différent, même si vous êtes dans une école ghetto, soit ghetto luxueux, soit ghetto pauvre, ça revient au même. Si vous n'avez aucune idée de comment faire tout ça, tout le côté humain, le problème c'est que enseigner c'est avant tout des compétences professionnelles et qu'on a tendance à considérer que c'est des traits de personnalité. Tant qu'on n'aura pas reconnu comme compétences professionnelles le cœur de notre métier, c'est quand même une relation humaine enseignée, avant tout. Et on a oublié, je ne sais pas si on l'a su un jour, mais en tout cas, pour l'instant, la posture qu'on nous demande d'adopter, ce n'est pas celle-là. Évidemment, ça ne peut plus fonctionner maintenant qu'on a voulu élargir l'école, ce qui est quand même une bonne chose, mais on a oublié que face à nous, on allait avoir des élèves plus différents, qui reflètent plus ce que c'est l'humanité au sens large et pas des gens qui sont présélectionnés et préformatés par leurs parents à la maison.
D'autant plus si on parle de l'école primaire, maternelle et élémentaire. Charlotte Magri, vous prenez position de manière très forte sur l'école. J'ai pu lire aussi des interviews de vous. Vous dites, nous avons besoin d'un regain de civisme pour faire face aux urgences scolaires aujourd'hui. Donc là, on s'adresse plus seulement aux parents, aux enseignants, au ministère de l'Éducation nationale, mais à toute la société. Quel serait ce civisme vis-à-vis de la question scolaire ?
J'aimerais bien avoir, moi, la définition. Je pense que personne n'a la solution.
Qu'attendez-vous ?
Le regain de civisme que, moi, j'espère, c'est que, déjà, on arrive tous à se mettre d'accord sur les problèmes qu'on a à résoudre et le fait qu'on ait une grosse nécessité de chercher ensemble. Mais ça dépasse largement le problème de l'école. On est quand même dans une situation où on regrette, à longueur de temps, que nos politiques soient dans du court terme. Parce que campagne électorale permanente, cirque médiatique, etc. Et on regarde ça évoluer, on en subit les conséquences, on connaît les enjeux plus ou moins à long terme sur ce qui va arriver au niveau de notre vie personnelle et de la vie de nos enfants. Mais y a plus de, ça devient très difficile d'avoir une action citoyenne qui ait du sens. Et c'est quelque chose qui, à mon sens, qui est à chercher, collectivement. Et après, je pense que si on veut dépasser l'étape de massifier l'accès à l'école, qu'on a réussi à faire, si on veut dépasser ça et arriver à démocratiser l'école, ce qui était quand même l'idée à la base, il faut qu'on accepte l'idée que nos élèves peuvent être responsables. Si nous-mêmes, en tant qu'humains, on ne fait pas appel à notre responsabilité humaine en tant qu'enseignants, on ne peut pas le transmettre. Et on n'est pas dans une société où la responsabilité humaine, elle va de soi, malheureusement.
On a parlé aussi de l'évitement scolaire. Enfin, c'est une question qu'on a rapidement évoquée. François Dubé, est-ce qu'on peut espérer finalement des citoyens français, une attitude vis-à-vis de l'école qui, en France, jouerait, hein, ça fait partie aussi des discours et de la mémoire qu'on a de l'école, une fonction qui aurait une fonction de cohésion sociale, un comportement plus citoyen dans le choix de l'école.
On peut l'espérer. Il faudrait d'abord que peut-être que l'on n'attende pas tout de l'école, je crois qu'on y gagnerait. Je trouve qu'on est un pays qui, dès qu'il a un problème, même quelquefois le plus invraisemblable par rapport à l'école, le terrorisme par exemple, on dit à l'école, protégez-nous du terrorisme, enfin, ce qui est quand même, quand on y réfléchit, un peu étrange. Je crois qu'il y a donc il y a savoir ce qu'on attend de l'école et ne pas tout en attendre. Et la seconde chose, c'est que je crois que ce qu'on a raté, c'était de profiter de ce que Nicolas Sarkozy avait cassé à la formation, pour pas en inventer une qui soit une réelle formation professionnelle et qu'on ait au fond rebricolé des choses qui
ressemblent ces nouvelles écoles, c'est un échec.
Je crois que tout le monde s'accordera à dire ici que l'enseignement c'est un métier, c'est pas simplement un talent personnel, c'est pas simplement une vocation, et qu'un métier ça s'apprend. Et je ne crois pas qu'on puisse dire qu'aujourd'hui, on a fait l'effort qu'il fallait là-dessus. Et peut-être aurait-il été plus utile de s'intéresser à la formation que de créer des postes de gens mal formés. Si je peux.
Raphaël Ander, prof de collège, un petit mot sur la formation. Vous aussi, vous souscrivez aux propos de Charlotte Magri. C'est le cœur du problème.
Alors, la formation, je dirais comme François Dubé, c'est essentiel la formation initiale des profs. Après, je pense qu'il y a un autre point qui n'a jamais été vraiment travaillé dans l'éducation nationale, c'est la formation continue. Et je pense que ça serait peut-être ça, plutôt que d'empiler des réformes tout clé en main, etc., qui correspondent pas en fait à cette relation pédagogique dont parlait Charlotte Magri. Ça serait plutôt de travailler la formation continue, les temps de formation, les temps de concertation en commun entre profs. Ça serait peut-être
C'est quand même étonnant. C'est ce qui remonte du terrain, c'est ce qui remonte des acteurs engagés, c'est ce que dit la recherche, c'est ce que disent les observateurs internationaux. On revient à PISA et à l'OCDE. Là, on attendra de se poser la question. Pourquoi pas de progrès sur la formation et sur la formation continue? On peut ne pas faire semblant de s'étonner. On s'étonne vraiment. Anne Barrère, François Dubé. François Dubé, vous rigolez. Sérieusement.
Mais je veux dire qu'il en est de la formation comme d'un tas de problèmes. Si vous dites on fait une autre formation, vous redéfinissez le niveau de recrutement. Vous recrutez plus jeunes. Et là, ça pose des problèmes. Vous redéfinissez les rapports des écoles d'enseignement et de l'université. Et là, tout le monde devient extrêmement nerveux pour des raisons de partage de clientèle que Anne pourrait bien définir. Donc, chaque fois, quand même, on tombe sur... Les grands problèmes deviennent de tout petits enjeux. Il faudrait beaucoup de courage, au fond, pour casser ces tout petits obstacles.
Du courage, ce sera le mot de la fin. La semaine prochaine, dimanche 17h, nous parlerons dans Rue des Écoles de l'enseignement du fait religieux et de la laïcité. Et puis nous demanderons comment la France est devenue le pays le plus inégalitaire de l'OCDE. Merci à tous mes invités. Les références des livres sont sur le site, à la page de Rue des Écoles, le site de France Culture évidemment.